Donc voilà, la parole est à qui veut la prendre. Il y a un micro baladeur. Donc je vais vous demander simplement de formuler vos questions de manière concise et claire et d'adresser la question à l'intervenant que vous souhaitez solliciter en particulier.
Polydor Edgar Kabeya, consultant en médias et communication, rédacteur en chef de la Vie Palabre à Paris. Je vais situer ma question parce qu'elle sera courte. Je n'aime pas beaucoup parler. En 2011, novembre 2011, j'étais comme observateur des élections à Kinshasa. J'ai vu ce qui s'est passé, je l'ai écrit et c'est passé. J'étais chargé de contrôler comment la télévision congolaise et les médias congolais rendaient compte du processus électoral. Je l'ai écrit aussi et j'ai vu ce qui s'est passé. À vous deux, je ne peux pas vous dire, vous le savez aussi. À partir de là, j'ai continué à suivre la radio-télévision nationale congolaise, que j'ai qualifiée dans un de mes papiers comme la Pravda du pouvoir, parce que ça ne changeait pas de Kim Il-sung. Hein. Bref, mais maintenant ma question est ailleurs, avec les réseaux sociaux. Vous avez parlé du Burundi, mais compatriotes, vous avez parlé du Congo. Et tu as bien fait de dire... Une chaîne de télévision, une chaîne de radio au Congo, c'est quoi? Ça appartient soit à un pasteur, à un homme politique, qu'il soit de l'opposition du pouvoir, et les réseaux sociaux aussi. Alors en tant que professionnel, la question que je vous pose à tous les trois, comment allons-nous faire pour un professionnalisme de l'information, étant donné cette dualité, étant donné que les chaînes appartiennent finalement à celui qui a des sous? Disons-le ouvertement, tu as l'argent, tu crées une chaîne de télé, tu as l'argent, tu crées des réseaux sociaux, tu as l'argent, tu crées un journal en ligne, que tu sois de l'opposition du pouvoir. Mais avec tout le flot des infos que vous recevez, que je reçois, et que certainement Marie Soleil reçoit aussi, parfois je ne lis même plus. Parce que d'avant, je me dis, je sais ce qu'ils vont dire. Ma question est la suivante, puisque même Trump tweet, ce qu'il dit est vrai? Ou ce que vous vous dites, ou ce que moi je dis est vrai? Comment faire la part des choses, c'est ma question et je termine là, entre la désinformation des réseaux sociaux, la manipulation par le pouvoir des réseaux sociaux, qui sont beaucoup infiltrés par le pouvoir, vous en savez quelque chose moi aussi, on ne va pas en parler ici, comment allons-nous faire pour sortir de ce piège? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Il y avait une autre question là-bas. On va prendre 4-5 questions et puis chacun répondra aux questions qui lui sont adressées.
Merci. Bonsoir. Je tiens à remercier les intervenants de leur discours. Je tiens à remercier l'ULB d'avoir organisé cette conférence. Moi, j'avais une question assez précise. Comme nous l'a montré la guerre en Syrie, qui dure depuis maintenant 7 ans, un dictateur a toujours besoin de soutien politique et financier pour rester au pouvoir et pour continuer à tuer sa population. Bachar el-Assad à la Chine et la Russie, entre autres, même si les ramifications sont bien plus compliquées que ça. J'aimerais savoir quels sont les soutiens financiers et quels sont les gouvernements politiques étrangers qui soutiennent le gouvernement de Kabila et de Nkurunziza. Merci.
Merci, la question est effectivement précise. Wendy ?
Bonsoir. Alors, comme c'est une conférence interactive, on a des questions qui viennent directement d'Internet et qui vous pouvez aussi participer dans la salle avec le hashtag WeAfrica. Donc, la première question s'adresse à Patient Ligodi. Elle vient de Nadia Nsaï sur Facebook qui dit « C'est pour savoir si Internet et les médias sociaux sont un bon outil pour atteindre la masse dans un pays comme le Congo ». La seconde question, c'est pour Yves Makwambala. Alors, les mouvements comme Lucha mobilisent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ont-ils aussi accès à d'autres canaux comme la radio et la télé pour atteindre les populations qui ne sont pas du tout connectées?
Merci. On va prendre une dernière question, tout à fait dans le fond. Voilà. On fera une deuxième tournée après.
Bonsoir. Je m'appelle Dorine Roulachité. Je travaille pour une organisation belge qui s'occupe de culture. Donc ma question aux trois intervenants. Nous nous sommes saisis souvent parce que dans vos pays, dans d'autres, sur le continent africain, on enferme souvent les culturels, les opérateurs et les artistes, pour les messages aussi qu'eux véhiculent, parce que ça reste quand même la voix des sans-voix aussi, quelque part. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce que vous les intégrez dans votre activisme au quotidien, parce que c'est notre branche aussi d'activistes, et notamment comment est-ce que vous vous mobilisez aussi pour les sortir. L'exemple que je voulais donner, un simple exemple, on a un opérateur qui nous a appelé parce qu'on l'avait convoqué à l'ANR par rapport au programme de théâtre de son festival, parce qu'il invitait des Burkinabés et des Sénégalais.
Donc l'ANR, c'est l'Agence nationale de renseignement. Donc voilà. C'est les services secrets, pas si secrets congolais.
Donc voilà, c'est une question par rapport à que fait-on des culturels pour qu'ils ne soient pas mis de côté. Et donc je rebondissais par rapport à ce que disait Maria Arena. Ne les oubliez pas, s'il vous plaît. Merci.
Bon, je pense qu'on va déjà répondre à ce lot de questions. Peut-être la question sur le professionnalisme de l'info, c'est plutôt pour Patient et Esdras.
Merci
Comment
pour la question.
Comment faire la part des choses.
Oui, mais justement, beaucoup de journalistes aussi, moi je vois ça souvent même au pays, au début, ils considéraient Internet comme une vraie menace à leur travail. Alors que, comme l'a dit quelqu'un, Internet c'est la deuxième meilleure chose qui soit arrivée au journalisme à part l'imprimerie. Et je suis convaincu qu'Internet... Oui.
Je n'étais pas d'accord.
Moi je suis. Pourquoi parce que Internet ouvre beaucoup de possibilités. Ça nous donne beaucoup de possibilités en tant que journaliste aujourd'hui. Un, l'accès aux sources, comme je l'ai dit là. Deuxièmement, parce que finalement, aujourd'hui, c'est plus facile avec aussi la présidence de la République qui a, chez nous en RDC, qui a compris qu'elle ne peut pas aujourd'hui être absente comme elle était pendant plusieurs années sur Twitter. Aujourd'hui, la présence de la République a un accès à un compte Twitter. C'est déjà, ils commencent à communiquer.
Parce que,
c'est, oui.
Ouais,
c'est, enfin, il a un service qui tweet à sa place, évidemment. Et donc, aujourd'hui, en termes d'accès déjà aux sources, oui, c'est la première. La deuxième chose, le retour du public. Avant, nous, à Kinshasa, par exemple, ceux qui ont fait la presse écrite, moi, j'ai fait un peu la presse écrite aussi, on sait que le plus grand tirage à Kinshasa, pour un journal, c'est 5000 exemplaires. Et c'est les potentiels, les plus grands journaux du Kinshasa. Les potentiels tirent 5000 exemplaires pour combien de personnes? Et la plupart des personnes lisent, en fait, ont accès à l'information de ces journaux via les revues de presse qui sont faites à la radio et à la télévision. Et d'autres se tiennent, on appelle ça chez nous, les parlements debout. C'est-à-dire, vous avez des journaux qui sont vendus, les gens ne lisent que les titres et puis ils débattent autour. Ça se passe comme ça chez nous. Aujourd'hui, avec Internet, comme je vous parle des chiffres quand je vous dis 2 millions de personnes, c'est des choses qui sont inimaginables pour la presse écrite, par exemple, dans notre pays. Deuxième chose que je voulais dire en rapport avec... je disais qu'Internet était une chance pour les journalistes par rapport à l'accès à l'information, par rapport aux multiples sources qu'ils nous donnent, par rapport à l'interaction que nous avons avec les publics. Il faut regarder au Congo, par exemple, quand vous écrivez un article, les commentaires en bas, c'est des compléments d'infos pour la plupart des cas, en plus d'insultes, il y a beaucoup d'insultes. Il y a aussi des compléments d'information, des professeurs, des personnes qui ont plus d'infos que le journaliste, qui arrive à placer ces informations. Et lire une information au Congo sur Internet n'est pas simplement se contenter de voir ce que le journaliste a écrit, et c'est aussi parfois regarder aussi ce qui se met en bas. Il y a une vraie dynamique qui s'installe à partir d'une information qui est diffusée sur Internet. Donc, on va dire une information sur Internet a plusieurs vies après qu'elle a été diffusée. Les défis, comme je l'ai dit, pour nous, en tant que journalistes, c'est qu'il y ait davantage de professionnels des médias qui investissent les médias, qui investissent Internet. Plus il y a des journalistes formés, des journalistes qui respectent la déontologie, qui sont professionnels, qui entrent sur Internet, qui ont la possibilité de diffuser sur Internet, qui comprennent et qui ont la culture numérique, ça permet de crédibiliser Internet chez nous. Ça permet également de hausser les niveaux de notre démocratie. Qui est, en fait, je le vois souvent, beaucoup des sites ne modèrent pas, par exemple, les commentaires. Ça dénature plus ou moins la qualité qu'on peut avoir du débat démocratique via Internet. Qu'on ait des médias qui soient formés, qu'on ait des médias qui aient des journalistes formés, qui soient compétents, qui aient la possibilité d'avoir un regard critique vis-à-vis de faits, puisqu'après, le journaliste, c'est pas seulement tel a dit, tel autre a dit. Le journalisme, c'est aussi avoir la possibilité d'aller toucher, vérifier et puis relater. après. Et puis tenir, on va dire, plus ou moins la démocratie chez nous. Chez nous, on dit la démocratie est tenue par deux bras. Le premier bras, c'est les élections. Et puis l'autre bras, c'est justement les médias. Il faut arriver à faire en sorte que ces médias puissent être à même de pouvoir donner de la bonne information qui soit assez instructive pour, pour notre jeune démocratie. Donc je termine en disant qu'il y a un sérieux travail de formation qui doit être fait. Il y a un sérieux travail de remise à niveau qui doit être fait. Il y a un sérieux travail au niveau des associations professionnelles sur la déontologie qui doit être fait. Et surtout, et je vais terminer par là, un sérieux travail sur la viabilité des médias. Parce que les médias congolais sont des médias pauvres. Les journalistes congolais, c'est des journalistes qui reçoivent 100 dollars le mois, encore que le mois, chez nous, ce n'est pas 30 jours. Ça peut être 90 jours, ça peut être 120 jours, ça peut être plusieurs jours après. Des journalistes chez nous, c'est des gens qui ont leur propre matériel et qui vont en reportage et qui ramènent les informations et qui sont, comme chez nous on dit, ils sont coupés, c'est-à-dire ils reçoivent de l'argent de la part de leur source d'information et la qualité de l'information qui est donnée laisse à désirer. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux travail, tout un cycle, tout un travail qui doit être fait au niveau de la formation, au niveau de la déontologie, au niveau des organisations professionnelles, au niveau de la viabilisation. Et malheureusement, les niveaux économiques du pays ne nous permettent pas non plus de pouvoir faire évoluer tous ces piliers-là. Merci.
Oui. Si je veux juste rajouter un point par rapport à ce que le patient vient de dire par rapport à votre question, c'est qu'on se rend compte actuellement dans le pays qu'il y a notamment plusieurs médias en ligne qui se réunissent, notamment pour combattre, le patient l'avait dit tout à l'heure lors de son intervention un peu plus tôt, qui se réunissent au fait pour essayer de combattre la mauvaise information qui circule en ligne. Notamment nous aussi, en tant que dans nos mouvements, dans une cellule à laquelle je fais partie personnellement, qui a notamment, lorsque nous voyons une information auquel nous estimons qu'elle est douteuse, on fait ce même travail, on cherche les informations par-ci, par-là. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le site de patients est l'une de nos références aussi par rapport à cela, pour combattre la mauvaise information.
Alors, on va quand même continuer de répondre aux autres questions.
Oui, mais il y a aussi plusieurs autres possibilités au niveau des universités, des écoles. C'est de promouvoir ce qu'on appelle l'entrepreneuriat dans le secteur des médias. Il faut davantage. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée, notamment des CFI, qui est l'Agence française de coopération médias, qui a financé notamment ce qu'on appelle le management. De master en management de médias. Arriver à donner aux journalistes des capacités en termes de management pour arriver à gérer des petites structures. Par exemple, ça, ce serait une bonne chose. Que les journalistes qui sortent de l'université aient la capacité de pouvoir proposer des idées, des initiatives entrepreneuriales qui permettent d'être indépendants, qui permettent de ne pas rentrer dans le système médiatique congolais tel qu'il est maintenant.
Esdras, est-ce que vraiment, les réseaux sociaux sont le meilleur moyen d'atteindre les populations au Burundi ou au Congo?
Bon, ça dépend. Bon. Voilà, bon, je vais expliquer. Un petit rappel. Là. Moi, je suis journaliste depuis 16 ans. J'ai été journaliste, j'ai laissé tomber le métier. Lorsqu'il y avait encore le parti unique, ça ne marchait pas très bien. Là. J'ai préféré arrêter. Et puis, je suis revenu au journalisme il y a à peu près 17 ans maintenant. Et lorsque je suis devenu correspondant de RFI il y a 15 ans, je pense, la première fois, à l'époque, et de l'AFP, pour envoyer une dépêche, je devais utiliser une valise satellitaire. Hein. C'était un gros truc là, qui pesait à peu près 8 kilos. Il fallait l'antenne, il fallait la trimballer, il fallait l'orienter là. C'était vraiment sport. On essayait de trouver l'Inmarsat. Oui, bon, regarde. Ça dépendait aussi de l'état du ciel, etc. Bon, ça ne passait pas toujours. Parfois oui, parfois non. Donc c'était terrible. Et puis il y a eu le téléphone portable, et puis il y a eu Internet, un miracle. Ben, le travail est très facile, de n'importe où. On peut appeler, on peut faire son papier, etc. On peut enregistrer, etc. Bon, en même temps, il y a eu les aléas d'Internet, c'est tout le monde qui se met à tweeter, tout le monde qui se met à donner de l'information. Et ça nous remet en cause, nous, journalistes des médias traditionnels, parce que Tu as parlé là en tant que... Et je comprends très bien ton enthousiasme, c'est passionnant, c'est comme ça. Mais ça nous a obligés à nous remettre en cause. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, s'il y a une tentative de coup d'État, s'il y a un accident, si on tire sur des gens, s'il y a... ça passe toujours sur les réseaux sociaux avant que moi j'en parle. Donc c'est voilà, c'est le problème de c'est le problème. Pendant longtemps j'avais le monopole de l'information et donc là ça fait vraiment c'est un sacré problème pour nous les journalistes. Alors qu'est-ce que moi je dois faire en tant que journaliste? Ce que je fais en fait c'est essayer là d'aller au-delà du factuel, c'est essayer d'expliquer parce que si je fais la même chose personne ne va m'écouter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est important, d'autant plus important que je pense en RDC comme au Burundi. Au Burundi, 98% de la population a la radio. Nous sommes des civilisations, des sociétés où de la parole où on écoute, les gens ne lisent pas, mais les gens écoutent la radio. Et donc, au Burundi, Internet, c'est à peu près 10 ou 15%. C'est encore très, très bas. Et donc, si vous voulez vous faire... entendre. Si vous voulez porter votre voix très loin, c'est d'abord la radio. La presse écrite, n'en parlons pas, la presse écrite, le plus grand tirage, c'est 1500 et ça se vend à peine. Mais et c'est une chance pour cette presse écrite, justement, parce qu'ils sont venus maintenant, aujourd'hui, ils en sont venus à utiliser Internet. Tout le monde maintenant passe par les réseaux sociaux. Par exemple, le plus grand journal burundais, il fait partie du groupe de presse Iwachu. C'est un journal, c'est l'un des meilleurs journaux que je connais sur le continent africain, à vrai dire. Du travail très sérieux, etc. Maintenant, ils utilisent les réseaux sociaux, que ce soit pour la télé, pour la radio, etc. Voilà, parce que sur les réseaux sociaux, il faut aussi se souvenir de faire de la radio. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ce que je n'ai pas encore fini, en fait, juste une précision que je voulais donner. Alors, nous devons nous remettre en cause, essayer toujours d'aller plus loin, d'essayer d'expliquer. C'est ça notre rôle. Et tu l'as dit, c'est une bonne source d'information. Aujourd'hui, je ne suis plus sur le terrain. Je ne suis plus au Burundi, je ne peux plus y retourner. Mais je continue à travailler sur le Burundi. Pourquoi ? Parce que, justement, WhatsApp, ça marche. J'ai des amis qui m'envoient des informations sur une chose qui se passe là, à gauche, à droite, etc., etc. Je regarde toujours où Twitter, c'est la nuit, je me réveille, je n'endors pratiquement plus. Et donc, ça permet un peu des sources, parce que notre travail, ce n'est pas de répercuter, c'est de vérifier, de recouper, de recouper, de recouper, et de trouver la bonne info. C'est d'abord ça, notre travail. Et sur la question que vous avez posée à propos des journaux qui appartiennent à la gauche et à la droite. Vous savez, non, c'est la même chose. Chez vous, ça s'appelle opposition pouvoir. Ailleurs, c'est la gauche droite, etc. Ce que je veux dire, c'est que voilà, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des intérêts, que ce soit des intérêts d'argent, des intérêts politiques, qui vont investir dans ce domaine parce que c'est important de contrôler l'information. C'est important, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui reste à nous autres journalistes, c'est de faire notre travail professionnellement. Et faire son travail professionnellement ne peut pas vous empêcher d'avoir des points de vue, d'avoir des principes, d'avoir des principes pour lesquels on se bat. Et dans un pays, il est légitime qu'il y ait tous les points de vue, que tous les points de vue soient représentés à travers les médias. Et c'est vraiment très important. Et c'est aux gens, à la population, à ceux qui lisent, de se faire une opinion. Vous savez, sur ces réseaux sociaux, ne vous y trompez pas, les gens savent exactement à quel site faire confiance ou pas. Les gens le savent parce qu'il suffit qu'ils lisent chez vous des fake news deux fois, plus personne ne va vous croire. Et donc... on n'a même pas besoin de se faire de la pub. Tout le monde sait qui lire, qui n'est pas lire, qui est crédible, qui n'est pas crédible. Même parmi les agences, j'ai travaillé longtemps pour l'agence France Presse. Je travaille aujourd'hui aussi pour l'agence France Presse. Je continue d'écrire sur le Burundi. Par exemple, il est arrivé... Ce n'est pas sur l'AFP, bien sûr. C'est sur la concurrence, peut-être. Il est arrivé que sur certains pays, les gens, les radios, les gens ne fassent plus confiance aux infos qui viennent de cette zone-là. Pourquoi ? Parce que le journaliste qui est là, donnent des informations qui ne sont pas souvent très vérifiées ou sont, qui sont un peu fausses, qui dénaturées, etc. Et donc, du coup, lorsque une informant voit une dépêche d'une telle agence qui vient de tel endroit, je travaille dans une radio, je travaille à RFI, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, ah, on vérifie d'abord. Alors que normalement, le lien de confiance qui nous unit aux agences, c'est on voit une information d'agence, ah, ça signifie qu'elle est vérifiée et on la répercute. Voilà. Donc tout ça, c'est important, c'est la confiance que l'on inspire qui compte le plus. Voilà.
Ça, c'était juste il y a 30 ans. Les agences de presse étaient fiers. Maintenant, l'agence congolaise des presses, elle est fière.
Non, je parlais des grandes. Moi, je parlais des grandes agences de presse. Je m'excuse. Je connais, oui. Bon, ce que je veux dire, voilà, c'est vraiment important. Voilà. Mais il faut que toutes les opinions puissent s'exprimer dans un pays, c'est important.
Merci. Alors, Yves, il y avait une question sur l'emprisonnement des artistes et des personnalités culturelles qui peuvent être aussi inquiétées. Comment vous les prenez en compte, vous, dans votre mobilisation ?
Effectivement. Il y a de cela quelques mois, notamment à Goma, il y a des artistes qui voulaient réaliser ce qu'on appelle une performance artistique pour dénoncer les massacres qui ont eu lieu dans ce temps à Beni. Et comment on les avait arrêtés. Mais je me rappelle, nous, à Kinshasa, on a dû mobiliser, notamment nous sommes allés à l'Académie Beaux-Arts faire des pétitions. Dire aux artistes, en fait, c'est un de vôtres qui s'est fait arrêter par... Il a voulu exprimer par rapport à l'art son métier au quotidien. Et c'est là que nous avons commencé à faire une pétition. Heureusement, sur les réseaux sociaux notamment, on a commencé à relayer l'information pour appeler les gens à mobiliser. Et on les a libérés.
Merci. Qui veut répondre à la question de monsieur sur les responsabilités internationales par rapport... Oui, on renvoie la question aux politiques qui sont dans la salle.
Mais bon, déjà, ce qu'il faut savoir, au niveau de la stratégie, si on essaie un peu d'élire, on voit très bien que le pouvoir de Kinshasa s'appuie sur des organisations sous-régionales et régionales. On voit très bien que, d'ailleurs, dernièrement, le président de la République a fait les déplacements pour le Congo-Brazzaville. Évidemment, c'est pour avoir l'appui du Congo voisin, qui est justement les pays... Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées au monde. Et Kabila sait que pour être en paix, notamment au niveau de la capitale, il faut bien contrôler la Brazzaville, qui est la capitale voisine. Et aujourd'hui, il y a quand même de bons rapports entre Joseph Kabila et les présidents Sassou Nguesso. Politiquement, on sait qu'on a... Nous vivons presque la même chose entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Brazzaville, Sassou Nguesso a fait un forcing pour rester au pouvoir. Il a notamment organisé des élections. Enfin, il a été candidat. Il a trépatué la constitution pour se représenter. C'est que le camp Kabila tente de faire depuis 2015, avec notamment la loi électorale qui, heureusement, n'a pas été violée. Mais là, on va passer justement... Pour cette session parlementaire qui a commencé le 15, il y a notamment des propositions pour arriver notamment à toucher la loi électorale, notamment dans son article 237, qui dit que pour ces processus, on ne va pas avoir notamment les votes électroniques. Et le camp Kabila veut organiser un vote électronique pour les élections ici. Ça, c'est pour le Congo-Brazzaville, mais on voit également qu'il y a un rapprochement entre les pouvoirs de Kinshasa et les pouvoirs du Burundi. Kinshasa a clairement soutenu Nkurunziza et il y a comme une sorte d'échange de bons procédés entre les deux pouvoirs. La Centrafrique et la RDC, évidemment, l'actuel président a des très bons rapports avec le président Joseph Kabila. Et donc, au niveau de la sous-région, il y a comme une sorte, à part l'Angola, qui jusque-là, qui était un allié, qui commence de plus en plus à se détacher. Si on essaie de lire la presse, on voit les différents mouvements. Mais on voit aussi au niveau de la SADC, qui est en fait le regroupement des États d'Afrique australe, la communauté économique des États d'Afrique australe, qui a une bonne dynamique pour notamment soutenir le président Kabila. Au niveau de l'Union africaine aussi, quand on regarde les derniers communiqués sur les élections, on voit par exemple que l'Union africaine a demandé à la Commission électorale nationale indépendante de la RDC de proposer un nouveau calendrier électoral qui prenne en compte que c'est impossible d'organiser les élections en 2018. Clairement, on voit la position des dirigeants africains par rapport au président de la République. Alors là, je parle du continent africain parce que c'est ce que je connais le mieux. Pour le reste, je vais laisser aux députés qui connaissent l'Union européenne et les États-Unis mieux que moi. Merci.
Pour le Burundi, je voudrais quand même insister sur un fait. Si le Burundi, il faut distinguer d'abord sur le plan international, sur le plan des relations internationales. Aux Nations Unies, le Burundi a compté jusqu'ici sur la Chine et la Russie. J'allais dire l'URSS. une erreur, un lapsus qui en dit très long peut-être. Alors, ce que je veux dire, donc, il compte sur ces deux. Il a compté jusqu'ici sur ces deux pays qui ont jusqu'ici bloqué au Conseil de sécurité toutes les résolutions qui pourraient être contraignantes, notamment en ce qui concerne l'envoi de policiers, de trucs, toutes les résolutions qui pourraient être contraignantes. Au côté africain, si on regarde le Burundi aujourd'hui, officiellement, il y a un processus de dialogue, c'est-à-dire de négociation, on l'appelle dialogue, qui est engagé et qui est sous la responsabilité de l'East African Community, c'est-à-dire de, comme on le fait maintenant en Afrique, d'une instance régionale dans laquelle le Burundi est englobé. Eh bien, ça n'avance pas du tout parce que le Burundi a le soutien notamment de la Tanzanie, du Kenya, le Rwanda est en retrait. Voilà. Donc, ça n'avance pas. Il n'y a aucune volonté réelle de faire pression sur le pouvoir pour qu'il parvienne à un accord avec son opposition, même qu'il accepte de s'asseoir avec son opposition. Ça, c'est côté politique étrangère. Alors, sur le plan économique, la question, et c'est vraiment, elle est très intéressante, comment est-ce qu'un tel régime peut tenir? C'est le pays, le Burundi fait partie des trois pays les plus pauvres du monde. Le Burundi, globalement, c'est vraiment... Alors, comment est-ce qu'il peut tenir? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Burundi, c'est un pays, la population a une très grande capacité de résilience. 90% de la population, c'est des paysans, ils vivent sur les collines. Et ces gens-là cultivent. Bon, ils cultivent pas suffisamment pour vivre, donc il y a de l'aide extérieure, etc. Donc voilà, ils survivent en quelque sorte. Mais ces gens sont totalement en dehors des circuits économiques, commerciaux ou que vous connaissez. Ce sont des gens qui vivent pratiquement en autarcie. Ils mangent ce qu'ils cultivent. Lorsqu'ils veulent acheter du sel ou du pétrole pour sa lampe, ou, etc., ils prennent un régime de bananes qu'ils vont vendre. C'est comme ça qu'ils vivent. Le reste, c'est 10% de la population qui sont dans les villes. Sinon, vraiment, au Burundi, c'est habitat dispersé sur les collines. Voilà. Et donc, c'est 10% qui vivent dans les collines, dans la capitale. Une bonne partie vit dans des conditions très misérables. Les autres, à peu près 20 000, 30 000, 50 000, ce sont eux qui constituent un peu la consommation de la société de consommation burundaise. C'est vraiment ça l'image du pays, si on veut voir ce que c'est. Et donc, le pays n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Le pays, l'utilisation des produits pétroliers, 6 millions de dollars par mois. Ça suffit, c'est ce qui peut éclairer, je pense, une ville belge pendant une semaine ou deux jours, je pense, ou un jour. Non, sincèrement, c'est très très peu, c'est des quantités dérisoires, donc on n'a pas besoin de beaucoup d'essence. La masse salariale, les fonctionnaires, les militaires ensemble, pris ensemble, c'est très très peu d'argent. Donc avec l'argent qu'ils retirent des missions militaires dans lesquelles ils ont engagé beaucoup de troupes depuis plusieurs années, voilà, ils ont à peu près 15-16 millions de dollars par. Donc, ils ont 12 millions pratiquement sur la Somalie, ils ont 4 ou 5 millions sur la Centrafrique. C'est largement suffisant pour payer à 80% les salaires, c'est pour payer, pour acheter de l'essence, etc. Et donc, le pays, la situation économique est très, très mauvaise. Le pays vit une véritable crise, mais le minimum, il l'a. Et comme le pouvoir considère qu'avec le minimum, il se vit très bien, vous comprenez que tout est bloqué. Voilà.
Ça, c'est pour qu'il y ait en dehors, ces populations vivent en dehors des sanctions économiques.
Vous savez, ces populations vivent dans... Ah, non, absolument. Ah non, les sanctions font... Vous savez, il faut distinguer. Il y a deux types de sanctions. Il y a les sanctions, il y a l'aide budgétaire. C'est l'aide budgétaire qui a été arrêtée. Et c'est, là aussi, c'est assez énorme pour le Burundi, mais pas autant que vous le pensez, d'accord ? Mais, par exemple, l'Union européenne continue à tous ces programmes en faveur de la population, c'est-à-dire, là, par exemple, ils sont en train de payer une partie, ils vont payer une partie de l'électricité qui sert à éclairer la ville de Bujumbura et le pays. C'est eux qui ont payé l'argent pour acheter l'essence, l'Union européenne. Ils sont en train de... ils estiment que il y a un minimum. Un pays comme le Burundi qui est dans une telle situation, si vous arrêtez l'aide totalement, eh bien c'est la catastrophe, je pense. C'est la catastrophe assurée, je pense. Un responsable ne peut pas le faire parce que les gens vivent dans des conditions tellement misérables. Vous ne pouvez pas imaginer 70% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et chez nous, un seuil de pauvreté, c'est 1,25 $ ou 1,25 par jour. Donc c'est très, très peu. Ce sont des gens qui n'ont rien. Et donc, le peu d'aide qui continue à parvenir parvient à justement faire survivre le pouvoir aussi.
Merci beaucoup. Alors, on va prendre une autre série de questions, mais je vais me permettre de tricher un peu comme j'ai le micro. Dans les questions, je voudrais pouvoir donner la parole à Claire Cooper du GRIP, tout simplement pour vous présenter une initiative. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait déjà eu une conférence il y a un an et demi, organisée un peu dans le même contexte, avec des militants... d'associations citoyennes, Filimbi du Congo qui a été mentionné, le Ballet citoyen du Burkina Faso, Yann Amar du Sénégal, donc vous connaissez sans doute tous ces mouvements. Et le GRIP a publié un livre qui donne la parole à ces jeunes et que je vais demander à Claire de vous présenter en vous signalant que le livre est disponible aussi à la sortie. Et je pense que vous retrouverez dans ce livre un certain nombre de personnes dont on a parlé à la table aujourd'hui. Et donc ça peut, pour tous ceux qui s'intéressent au mouvement citoyen et à l'utilisation par les mouvements citoyens des technologies de la communication, ce livre peut être d'un grand intérêt. Donc voilà, je donne la parole à Claire et puis après à qui veut l'apprendre encore.
Merci Marie-Soleil et merci à tout le monde d'être là. Marie-Soleil a très bien fait l'introduction. Il s'agit de ce livre-ci qui s'appelle « Une jeunesse africaine en quête de changement ». Comme l'a dit Yves, donc, l'idée de tous ces jeunes, c'est d'arriver à l'alternance. Et donc, en fait, le projet de ce livre, il n'est pas parti du GRIP, qui est un groupe de recherche sur les questions de sécurité, mais c'est les membres de Filimbi qui, suite à l'événement de Kinshasa en mars 2015, Yves s'est fait arrêter, eux, ils ont dû quitter leur pays. Et donc, ils se sont retrouvés ici en Belgique. Ils y sont toujours. Et nous avons une discussion. Et Floribert, un des leaders de Filimbi, nous a dit, voilà, suite à cet événement, on a eu énormément de demandes par les réseaux sociaux de jeunes dans le pays, en RDC, mais ailleurs aussi, qui nous ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Vous êtes aussi des jeunes, nous on a envie de faire quelque chose, comment on peut s'y prendre ? Ils ont été véritablement assaillis de demandes de ce type, et Floribert nous a dit, on aimerait bien faire une espèce de manuel, le mot est peut-être un petit peu trop fort parce que c'est pas un guide pratique de comment monter un mouvement citoyen, mais l'idée c'était un petit peu ça. Et puis aussi, il y avait l'idée que dans les médias ici, on a répandu l'idée au niveau de ces mouvements citoyens, c'est venu un peu comme si c'était des mouvements pop-up qui sortaient de nulle part, dont on n'avait jamais entendu parler. Et Floribert, comme ses camarades de lutte, je veux dire que ce soit le Ballet citoyen ou Yann Amar et la Lucha, bien sûr, ils s'inscrivent dans des mouvements de lutte et de contestation qui sont très anciens dans leur pays, qu'on oublie souvent ici, qui remontent aux colonies et puis aux mouvements d'indépendance. Je pense aussi la référence à ces associations d'étudiants qui étaient en France et qui se réclamaient des mouvements marxistes-léninistes. Voilà, et donc il y a toute une filiation par rapport à ces mouvements, qui est très importante et qui souhaitait aussi qu'on prenne en compte dans la perspective qu'on a de leurs actions. Et donc, on ne s'est pas limité à travailler, à faire le portrait de Filimbi, mais aussi, comme l'a dit Marie-Soleil, Yann Amar, qui avait un peu ouvert la lutte et qui ont eu la chance de participer à l'alternance du pouvoir. Et puis, au Burkina Faso, le Ballet Citoyen, puis Filimbi et dans une moindre mesure La Lucha. L'idée ici, ce n'est pas un livre où on analyse ces mouvements. Le souhait de Filimbi, comme je l'ai dit, c'était de faire un portrait de ces associations, de ces mouvements, en tirant des éléments qui pouvaient servir de réflexion pour d'autres jeunes qui, en Afrique, voulaient se lancer dans l'aventure. Et donc, pour avoir cette perspective, on dirait, historique de trajectoire de contestation, nous avons fait appel pour les trois pays à des figures de recherche, soit des historiens ou des sociologues qui permettent justement de tracer cette histoire. Et puis alors, c'est la parole à ces mouvements que nous avons donnée et en rédigeant, si vous voulez, en transcrivant cette parole, on s'est aperçu de toutes les similitudes qu'il y avait dans ces mouvements. Pour ne pas être longue, c'est sûr que les figures d'inspiration sont les mêmes, puisqu'ils s'inspirent aussi bien de Lumumba, des tas de figures qui sont connues et dont ils se revendiquent la paternité, et dans les formes de lutte aussi. Et puis, il y a aussi l'activisme, puisque, comme tu l'as dit, Yves, l'idée c'est avant tout d'être actif et d'être extrêmement mobile. Donc on se dégage, si vous voulez, du travail d'ONG ou d'association sur le terrain. L'idée c'est d'être d'actif avant tout et de se lever. Et puis aussi en termes de communication, là je crois que tout a été dit, mais peut-être que je peux résumer par une formule d'un des historiens burkinabé qui a introduit la partie sur le Burkina Faso et qui disait effectivement ces mouvements ne demandent plus la parole, ils la prennent. Et ça, c'est grâce en fait aux réseaux sociaux et à la téléphonie mobile. À Kinshasa, enfin en RDC, vous avez cité des chiffres, mais il faut savoir qu'au Sénégal, la pénétration de la téléphonie mobile atteint 113%, ce qui a permis quand même au mouvement de mener des actions de type de guérilla urbaine pour la diffusion des messages, parce qu'aussi, ils possèdent... Il nous expliquait qu'il possédait plusieurs téléphones, 4-5 en poche, pour justement dévier les autorités qui peuvent les infiltrer, puisque c'est une des très grandes craintes de ces mouvements, c'est l'infiltration. Et lorsqu'on a présenté le livre avec le Ballet Citoyen et Smokey, qui est un des leaders, il nous a dit aussi que maintenant, il prenait du recul par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'en fait, ils ont fait l'objet de campagnes de dénigration, puisque ces mouvements, toutes ces techniques peuvent être infiltrées, et donc ils prennent du recul, mais ils confirment ce que vous dites, que ça a été évidemment des éléments essentiels dans la mobilisation et le caractère instantané, justement, pour permettre l'action. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. J'espère juste que je vous ai donné envie de vous procurer le livre. Et donc, vous pouvez le trouver ici, à la sortie, mon collègue Instant. Voilà, merci beaucoup.
Merci, Claire. Monsieur, là, une question, oui. Il nous reste une minute, donc soyez bref.
Bon, merci beaucoup. Je m'appelle Vital Chimirimana, je suis burundais, comme Esdras. J'ai lancé et dirigé un mouvement de protestation contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui en exil. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux au Burundi, c'est une nécessité vitale pour la population et aussi pour le gouvernement en place, parce que les informations s'échangent. Et vous serez également étonné lorsque vous voyez que le gouvernement n'a jamais cherché à fermer les réseaux sociaux. Et vous vous posez cette question. Je peux tenter une réponse. C'est parce que le gouvernement, les services de renseignement, la police et l'armée ils puisent également une information substantielle, notamment pour surveiller tout ce que nous faisons, tout ce que les opposants disent, tout ce que les groupes armés qui se forment font, etc. Donc, vous comprenez que les réseaux sociaux également ont permis une résilience, et surtout pour la population et les journalistes. Il y a une centaine qui se trouvent aujourd'hui en exil et qui ont continué à informer à partir des réseaux sociaux. Et je ne vais pas m'attarder à décrire la situation du Burundi, mais je voudrais poser une question pour les trois. Qu'est-ce que vous faites en termes de sécurité numérique? Vous avez dit que des fois vous êtes arrêté et lorsque votre téléphone est pris par la police, les renseignements, votre appareil photo, etc. sont pris. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites pour prévenir que vos informations ne soient pas prises en même temps que votre appareil? Merci.
Merci. Une dernière question. Oui, monsieur.
Bonsoir. Pacine Sawela, je suis d'origine congolaise. Je suis aussi en même temps inspecteur fiscal ici en Belgique. Et ça m'empêche pas de militer pour mon pays. Voilà. Je voulais d'abord saluer votre courage. C'est vrai qu'à notre époque, on avait peut-être pas ce courage-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que vous mettez votre vie, vos vies en danger, et celle de vos parents aussi. Mais je voudrais revenir sur un point précis, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé de la rentrée scolaire au Congo. On a vu qu'il y avait des enseignants qui manifestaient. Mais par contre, ce qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu les parents tout autour d'eux. On a vu les enfants aussi désemparés. Mais par contre, la mobilisation des parents reste assez en retrait. Est-ce que pourriez-vous faire quelque chose dans ce sens-là? Et puis moi, j'aurais souhaité une chose, parce que je sais que la qualité de l'enseignement est vraiment en baisse. Moi, je suis venu ici, quand j'étais au Congo, j'ai étudié dans une école à 600 km de Kinshasa. C'était dans un internat, dans les Mayombe, à Kangou, où il y avait des professeurs noirs, blancs, un peu tout le monde. Mais c'était un enseignement de qualité, ce qui m'a permis de décrocher mon diplôme universitaire ici. Et je sais que l'avenir, si vous entendre parler à des termes assez simples, compréhensibles, ça fait plaisir. Et j'aimerais que ça puisse continuer, parce qu'aujourd'hui, nous le savons, au Congo, nous avons une multiplicité des universités, des écoles qui sont privées et qui ne sont pas accessibles à tout le monde et qui sont accessibles seulement à des gens qui sont riches. Nous le savons, ce sont des gens qui sont proches du pouvoir. Moi, j'aimerais que vous dénonciez cela, parce que finalement, ces diplômes ne sont ni reconnus nulle part, ni en Europe et quelque part aussi. Et ça ne bénéficie pas non plus de la population locale. Donc il est important que vous mettiez l'accent sur l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est le devenir du pays. Donc j'aimerais surtout que dans vos images, vous allez dans des écoles, vous montrez les enfants qui s'asseyent à balle à les sols pour suivre des cours, pour dire que c'est scandaleux. Et ils touchent des billards, ils gagent des millions. Ils sont capables de prendre 1 000 euros ou 1 000 dollars pour investir, acheter des matériels didactiques, avoir des bibliothèques. Il n'y a aucune école au Congo, que ce soit primaire ou secondaire, où on va trouver qu'il y a des centres de bibliothèques. Et ça, au XXIe siècle, ça n'existait pas. Donc vraiment, je compte sur vous aussi que vous fassiez quelque chose.
Merci. On va prendre une dernière question, mademoiselle.
Alors, mon question s'est adressée à ceux qui viennent de l'Union européenne, donc, et je voudrais justement savoir comment, dans la prochaine partnership, est-ce qu'on exploitera ou on prendra en considération tout ce qui est le potentiel, mais en même temps les dangers des nouveaux moyens des technologies de communication. Voilà, merci.
Merci pour la question. la question de la sécurité numérique. Qui veut se prononcer sur cette question?
Celui
qui a passé le plus longtemps en prison.
Ah ouais.
Merci pour votre question. Notamment, je suis informaticien de profession et je me retrouve dans la cellule qui est chargée, en tout cas, de former certains militants sur notamment la première des choses qui est la sécurité numérique. Déjà, le premier principe que nous avons à faire, que nous avons l'habitude de faire lorsqu'on nous arrête, c'est casser nos téléphones. Parce que logiquement, Lors de nos formations, en fait, on apprend à nos militants, la première des choses, c'est de mettre vos données ou de sauvegarder dans, vos données dans un cloud. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les informations sensibles, nous utilisons certains autres comme applications telles que notamment Instagram, auquel après avoir lu une information que nous considérons en fait sensible, que l'information est automatiquement détruite. Les informations notamment de rencontres, on va se voir pour tenir nos réunions, ça vous pouvez laisser sur votre WhatsApp, cela n'est pas si sensible que ça, que selon notre approche. Donc c'est tout.
Merci beaucoup. Patient.
Chez nous, on a déjà que moi, j'ai viré sur iOS. J'ai quitté Android parce que c'est beaucoup plus facile à pouvoir décrypter. Ce qu'on a recommandé également au niveau de la rédaction, que tous qu'on est de iOS. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand ça chauffe vraiment, on utilise des applications alternatives comme Telegram. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ils savent que Telegram, c'est un peu comme WhatsApp, mais là, les messages, vous arrivez à déterminer au bout de 10 secondes, les messages disparaissent, et ainsi de suite. Donc, quand c'est vraiment chaud, on arrive à faire ça. Mais aussi, au niveau de... Le travail qui est fait, c'est un travail collaboratif. Par exemple, on n'utilise pas Word, on utilise Google Docs. Ça permet, par exemple, que le travail que moi je fais ici, celui qui est à Goma, par exemple, il voit ce que je fais, et ainsi de suite. Ça permet de savoir ce que tout le monde fait et ça nous met en sécurité. Et beaucoup, quand on est à chaque fois qu'on est en situation de reportage, on fait beaucoup de live aussi pour que ce qu'on fait, les gens soient au courant directement pour éviter... que les gens soient portés disparus, ainsi de suite. Voilà.
Bon, moi, j'ai de la chance maintenant. Bon, la chance quelque part. Je suis loin du théâtre des opérations et donc il y a certaines précautions dont je n'ai plus besoin de prendre. Mais lorsque, par exemple, j'étais sur le terrain, bien sûr, je prenais beaucoup de précautions parce que je sais que c'est très difficile. Mais comme il y a ce qu'ils ont dit, mais il faut aussi ajouter des choses aussi simples que changer régulièrement son mot de passe, etc. Et pour prendre des mots de passe compliqués, voilà. J'ai la chance, le jour où ils m'ont arrêté, j'avais déjà un iPhone, un agent... Peut-être qu'il était inculte qui a essayé de... je lui ai donné un faux code d'ouverture. Il a essayé, je pense, une dizaine de fois.
Donc, pour prendre les mêmes exemples, moi aussi, quand ils m'ont pris, la première des choses, ils ont pris le téléphone comme il n'avait pas allumé. Ils me l'ont remis pour que je l'allume, moi, pour qu'ils voient ce qu'il y avait dedans. Évidemment, ce que j'ai fait, comme ils me l'ont rendu, j'ai allumé, ils étaient distraits, j'ai désinstallé WhatsApp parce que sais c'est ce qu'ils cherchaient.
Voilà. Voilà, donc il faut prendre des précautions.
Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de questions, mais bon, il y a un verre qui vous attend, vous allez pouvoir continuer la discussion. Il me reste pour conclure à vous remercier de nouveau tous pour votre présence. Je propose que vous applaudissiez quand même les trois intervenants chaleureusement. Alors, je voudrais vous signaler, pour ceux que la thématique intéresse, que le 6 octobre, j'ai mentionné tout à l'heure la présence dans la salle de 10 journalistes haïtiens qui sont pour l'instant à Bruxelles. Le 6 octobre, on organise dans les locaux de l'ULB à Flaget, donc à la faculté d'architecture, une conférence sur les enjeux et défis du journalisme dans les États fragiles. Et là, le focus sera sur Haïti, où les journalistes rencontrent aussi des problèmes différents et parfois similaires à ceux dont on a parlé ce soir. Et donc, avant de vous libérer pour que vous puissiez aller boire et vous rafraîchir, je remercie une dernière fois le Parlement pour l'organisation de cet événement et surtout mes collègues Marie, Ornella, Philippe et Julie qui ont aidé à la mise en place de cette conférence. Merci pour votre présence et passez une bonne soirée et poursuivez bien les débats.